Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que tout le monde m'entend? Je baisse un peu le micro. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Si jamais, pendant le cours du culte, vous ne m'entendez plus, levez une main. Comme ça, je repérerai, puis ça me fera penser que je dois de nouveau régler le micro ou des détails pratiques. Merci. Il y a une quinzaine d'années, une série de textes bibliques avait particulièrement nourri ma foi de jeune adulte, et ils m'ont à nouveau touché récemment. Je n'en retire plus exactement la même chose qu'il y a 15 ans, et c'est normal puisque la Bible est la parole vivante de Dieu, et Dieu peut nous parler d'une nouvelle manière lorsqu'on lit un texte pour la 10e, 20e ou même 100e fois. Et ce matin, je vous invite à réfléchir avec moi aux étiquettes que nous avons tendance à coller aux autres ou à soi-même. Et je parle pour moi en premier. Une étiquette au sens figuré, c'est ce qui marque quelqu'un et le classe. Quelques personnes mentionnées dans le livre des Actes y ont eu droit, à tort ou à raison. Le plan de la prédication, en 4 points. Premier point, une étiquette positive. Deuxième point, une étiquette positive inappropriée. Troisième point, des étiquettes positives mais négatives. Suspense. Et quatrième point, une étiquette négative inappropriée. Je rassure tout le monde, les deux derniers points seront plus courts que les deux premiers. Donc si vous voyez que les deux premiers prennent du temps, rassurez-vous. Voilà. Premier point donc, une étiquette positive. Le premier récit se situe dans les mois qui ont suivi l'ascension de Jésus et le don du Saint-Esprit à la Pentecôte. On assiste à la naissance de l'Église. On va lire un premier texte qui sera projeté. Alors, excusez-moi si tout le monde arrive à lire à peu près. C'est bon. Je n'ai pas l'habitude de la taille de caractère. Voilà. Acte 4, 32 à 37. Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et la grâce de Dieu agissait avec force en eux tous. Aucun d'eux n'était dans le besoin, car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le produit de la vente et le remettaient aux apôtres. Ceux-ci le répartissaient alors entre tous, et chacun recevait ce dont il avait besoin. C'est ainsi que, par exemple, un certain Joseph, possédait un terrain. C'était un Lévite originaire de Chypre. Les apôtres le surnommaient Barnabas, ce qui veut dire l'homme qui encourage. Il vendit son terrain, apporta l'argent et en remit le produit aux apôtres. Le texte nous présente un personnage qui se nomme Joseph. Joseph, c'était un prénom hyper courant à l'époque. Il devait y en avoir des dizaines dans l'église de Jérusalem. Mais les apôtres l'ont surnommé Barnabas. Son vrai nom est cité uniquement dans ce passage, alors que son surnom est cité 28 fois dans le Nouveau Testament. Ce qui montre qu'il était généralement appelé par son surnom. Et quel merveilleux surnom, puisqu'il veut dire l'homme qui encourage. En effet, Barnabas a énormément encouragé les premiers disciples. Je reprends exprès le mot « disciple » que Matthieu a défini la semaine dernière dans sa prédication et qui signifie, qui désigne tous ceux qui reconnaissent que Jésus est leur maître et qui suivent ses enseignements. Donc ce n'est pas que les 12. Hein. Le surnom Barnabas était comme une étiquette collée sur lui, mais une étiquette super positive. Aujourd'hui, on offrirait plutôt un t-shirt. Imaginez-vous la scène. Chaque fois qu'on l'appelait, ça pouvait donner ça. Hey, « Eh, salut l'homme qui encourage, comment ça va ?» Ou encore, « Eh, l'homme qui encourage, j'aurais besoin d'un coup de main, tu peux venir m'aider ?» On imagine mal une réponse négative, n'est-ce pas? Barnabas encourageait, cela lui collait à la peau, comme le t-shirt peut-être, hein. Et ceux qui l'entouraient participaient à ce que cela continue à lui coller à la peau, en l'appelant par ce surnom. Donner un surnom, est une pratique courante dans le milieu professionnel, par exemple. Est-ce que vous avez des collègues qui en portent ? Est-ce que vous en portez un vous-même ? Certains surnoms sont simplement liés à une caractéristique de la personne. Par exemple, j'ai un collègue qu'on appelle le Breton, pas parce qu'il vient de Bretagne, mais du village Bretagne à côté de Montrevieux. Et un autre qu'on surnomme 4G, pas parce que c'est un geek ou un accro du téléphone portable, mais parce qu'il s'appelle Gugisberg et qu'il y a 4G dans son nom de famille. Par contre, certains surnoms, sont hélas donnés à l'insu de la personne concernée pour se moquer d'elle et la rabaisser. Ils peuvent parfois être vulgaires et très violents. Vous comprendrez que je ne vous donnerai pas d'exemple. Mais il en existe toute une panoplie pour désigner, par exemple, quelqu'un qui veut toujours être bien vu du chef, même si c'est au détriment des autres. Je pense que beaucoup de ceux qui ont une activité professionnelle savent de quoi je parle. J'ai pensé aux pasteurs qui ont aussi une activité professionnelle, mais qui ne doivent pas entendre beaucoup ce genre de choses. J'espère. Ces surnoms sont donnés souvent par jalousie ou par vengeance. Exemple, deux candidats pour un seul poste. Le candidat malheureux va être tenté de donner à son collègue qui a été retenu un surnom négatif par jalousie. Ils se sont rabaissés. Et il va avoir tendance à donner un surnom négatif à son chef par vengeance. Utiliser des surnoms comme ça, et d'une manière générale dire du mal dans le dos de ses collègues, contribue à pourrir une ambiance de travail. En tant que chrétiens, nous devons agir autrement et ne pas oublier les paroles de Jésus. Matthieu 10, verset 26. Tout ce qui fait en secret sera dévoilé au grand jour, et tout ce qui est caché finira par être découvert ou connu. Si nous disons du mal dans le dos de nos collègues, nous prenons le risque que la personne finisse par le savoir, via un autre collègue, par exemple. Alors la règle, tout ce que nous disons dans le dos d'une personne, nous devrions pouvoir le lui dire en face. Si nous disons du mal d'un collègue dans son dos, cela se retournera aussi de toute façon contre nous, parce que nous récoltons ce que nous semons. Si nous semons la médisance, nous récolterons la critique. À force de dire du mal des autres dans leur dos, et ben à force, les autres aussi diront du mal de nous. On récolte ce qu'on sème. Et si on sème l'encouragement, on peut récolter aussi l'encouragement. Nous pouvons valoriser les qualités des personnes qui nous entourent au lieu de pointer leurs défauts. Et ne pas avoir que la paille dans l'œil de son frère, pour reprendre une autre expression de Jésus. Jésus dit aussi que l'on nous appliquera la mesure dont nous serons servis pour mesurer les autres. Si nous collons des étiquettes négatives à nos collègues, ils nous en colleront également. Attention donc à l'utilisation des surnoms et apprécions à sa juste valeur celui de Barnabas, l'homme qui encourage. Petit test. Quel surnom aimerions-nous recevoir ? Et quelle est mon attitude pour que ce surnom me corresponde ? Le but n'est pas de tirer l'orgueil d'un surnom qu'on pourrait nous donner, ou encore d'avoir un surnom qui ne corresponde pas à la réalité. Revenons au texte d'Acte 4. Le contexte dans lequel nous découvrons Barnabas, pour la première fois, me laisse toujours un peu rêveur. C'est un contexte particulier et je ne m'attarderai pas sur ce point ce matin. J'aimerais simplement relever un aspect particulier, intéressant, mais qui nous échappe certainement. En effet, dans l'Ancien Testament, les Israélites n'avaient pas le droit de vendre leur terrain comme ils le souhaitaient. Les terrains devaient en principe rester dans les familles. On trouve cette loi dans Lévitique 25. Par exemple, au temps du prophète Élie, Naboth avait refusé de vendre sa vigne au roi Akab, justement pour respecter cette loi. Et il l'avait payé de sa vie. Un roi 21, pour ceux qui veulent relire. Et la règle était encore plus stricte pour les Lévites, qui n'avaient pas le droit de vendre leurs champs qui se trouvaient autour des villes qui étaient à eux. Ça les protégeait, ils gardaient ces terrains à perpétuité dans la famille. Or, justement, Barnabas est un Lévite. On ne sait pas si le champ de Barnabas rentrait dans ces critères, mais en tout cas, il aurait eu une excuse pour ne pas vendre son champ, en s'appuyant même sur la loi de Dieu. On découvre, avec ces versets extraordinairement simples, que Barnabas ne s'est pas attaché à son ancienne étiquette de Lévite, avec tous les privilèges qui y étaient attachés. Il vit pleinement la liberté qu'il a découverte en Christ, et cette liberté le pousse à donner. Il possède un terrain, il le vend, il apporte l'argent et en remet le produit aux apôtres. La première fois que l'on découvre cet homme qui encourage, ce n'est pas par un beau discours, mais c'est par un acte. L'encouragement de Barnabas était financier et il l'a fait simplement. Remarque, d'autres disciples ont agi de la même manière et ne sont même pas cités dans le texte. Cela correspond à l'enseignement de Jésus. Ce n'est pas tout de faire un don. Ce qui est le plus important, c'est l'état d'esprit dans lequel on fait un don. Jésus en parle souvent et on va lire juste un passage. Matthieu 6, 1 à 4. Prenez garde de ne pas accomplir devant les hommes, pour vous faire remarquer par eux, ce que vous faites pour obéir à Dieu. Sinon, vous n'aurez pas de récompense de votre Père céleste. Si donc tu donnes quelque chose aux pauvres, ne le claironne pas partout. Ce sont les hypocrites qui agissent ainsi dans les synagogues et dans les rues pour que les autres chantent leurs louanges. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Quant à toi, si tu veux donner quelque chose aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Que ton aumône se fasse dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ce n'est pas tout de faire un don, ce qui est le plus important, c'est l'état d'esprit dans lequel on fait le don. Point 2. Une étiquette positive inappropriée. Nous aurions tendance à terminer cet épisode de vente de champs avec la fin du chapitre 4. Mais en réalité, on ne peut en comprendre toute la valeur qu'en continuant la lecture au chapitre 5. Le chapitre 5 commence par le mot « mais », qui est un mot de liaison et qui met les deux récits en parallèle. Il reprend les mêmes verbes dans le premier verset du chapitre 5 que ceux du dernier verset du chapitre 4. Vendre, apporter, remettre. D'autres personnes paraissent avoir fait comme Barnabas, mais dans un tout autre état d'esprit. Et on va lire ensemble acte 5, 1 à 11. Mais un certain Ananias, avec sa femme Saphira, vendit aussi une propriété. Et en accord avec elle, mit de côté une partie de l'argent de la vente, apporta le reste aux apôtres et le leur remit. Pierre lui dit, « Ananias, comment as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton cœur? Tu as menti au Saint-Esprit en cachant le prix réel de ton champ pour en détourner une partie à ton profit. N'étais-tu pas libre de garder ta propriété? Ou même après l'avoir vendue, ne pouvais-tu pas faire de ton argent ce que tu voulais? Comment as-tu pu décider en toi-même de commettre une telle action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » À ces mots, Ananias tomba à rien de mort. Tous ceux qui l'apprirent furent remplis d'une grande crainte. Des jeunes gens vinrent envelopper le corps, puis l'emportèrent pour l'enterrer. Environ 3 heures plus tard, la femme d'Ananias entra sans savoir ce qui s'était passé. Pierre lui demanda, « Dis-moi, est-ce bien ce prix-là que vous avez vendu votre champ ?»« Oui, répondit-elle, c'est bien à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment avez-vous pu vous concerter pour provoquer ainsi l'Esprit du Seigneur ? Écoute, ceux qui viennent d'enterrer ton mari sont devant la porte et ils vont t'enterrer toi aussi. » Au même instant, elle tomba inanimée aux pieds de Pierre. Les jeunes gens qui rentraient la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'enterrèrent aux côtés de son mari. Cet événement inspira une grande crainte à toute l'Église, ainsi qu'à tous ceux qui en entendirent parler. Ce passage est très déroutant. Première remarque, le nom Ananias vient de Anania, qui veut dire « l'Éternel a été miséricordieux ». Contrairement à Barnabas, voilà un homme qui porte très mal son nom. Dieu, dans sa sagesse, n'a pas fait miséricorde, il a exercé son jugement. Pourquoi Dieu a-t-il agi de cette manière? À première lecture, il paraît manquer deux informations qu'il aurait été intéressant d'avoir. Premièrement, qu'est-ce qu'Ananias a dit exactement à Pierre lorsqu'il a remis l'argent? On a l'impression qu'Ananias n'a pas vraiment menti et que Pierre joue sur les mots. On comprend cependant, d'après les paroles de Pierre, qu'Ananias et sa femme ont vendu un terrain et ont fait croire qu'ils donnaient tout aux apôtres et ne gardaient rien pour eux. Deuxième information qu'il aurait été intéressant d'avoir, comment Pierre a-t-il su que ce n'était pas la totalité de la somme? Je pense que c'est encore dans les paroles de Pierre qu'on le comprend. Au verset 3, il dit « Tu as menti au Saint-Esprit ». Et au verset 4, « Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu ». Je pense que Pierre a reçu du Saint-Esprit la conviction qu'Ananias avait menti. Ce texte est solennel. La mort de deux personnes le rend solennel. Mais nous avons du mal à comprendre ce qui justifie ce dénouement. Après tout, Ananias et Saphira étaient libres de faire de leur argent ce qu'ils voulaient, Pierre le dit. Et ils en ont donné une partie importante aux pauvres. C'était une bonne action. Pierre aurait simplement pu accepter l'argent, même s'il savait que ce n'était pas la totalité de la somme. Cependant, nous avons dit, au sujet de Barnabas, que l'état d'esprit dans lequel est fait le don est plus important que le don lui-même. Le vrai problème soulevé dans ce texte, c'est celui que dénonçait Jésus, l'hypocrisie et le mensonge qui va de pair. Je dis une chose et j'en fais une autre. En apparence, je fais le bien, mais mes motivations sont mauvaises. Je joue sur deux tableaux. Je cherche ma propre gloire au lieu de celle de Dieu. Ananias et Saphira étaient des hypocrites, des menteurs, des trompeurs. Ils voulaient que l'on colle sur eux l'étiquette VIP, Very Important Person, ou VIC, Very Important Christian, chrétien très important, même si, petite parenthèse historique, on n'employait pas encore le mot de chrétien quand ce texte, lors de ce passage. L'extérieur brille, mais l'intérieur est pourri. En apparence, le don était une bonne chose, mais l'état d'esprit dans lequel il était fait était mauvais. Quelques années plus tard, Paul définira aussi cet état d'esprit. Tout ce que nous faisons, il faut le faire par amour. Et 1 Corinthiens 13, verset 3, colle parfaitement avec le texte de ce matin qu'on vient de lire. Si même je sacrifiais tous mes biens, et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Ça colle bien avec le texte d'Ananias et Saphira. Retour à la question, pourquoi Dieu a-t-il fait mourir Ananias et Saphira? Est-ce que c'est à cause du mensonge? D'autres personnes ont menti et ne sont pas morts instantanément. Pierre est d'ailleurs bien placé pour le savoir, il a dit trois fois qu'il ne connaissait pas Jésus. Donc pourquoi Dieu a-t-il fait mourir Ananias et Saphira? Je vais vous décevoir, je n'ai pas la réponse. Le texte ne nous l'explique pas. Dieu seul le sait vraiment. Et on doit faire confiance à son juste jugement. Mais je comprends votre déception, alors je vais quand même vous partager mes réflexions. On a le droit de se poser des questions sur un texte, même si on n'est pas sûr d'avoir les bonnes réponses. Donc la question est la suivante. Qu'est-ce qui se serait passé si Pierre avait dit à Ananias « Tu as menti », mais que Dieu n'avait pas fait mourir Ananias? Eh bien, dans un premier temps, cela aurait été la parole de Pierre contre celle d'Ananias. Impossible de savoir qui a tort, qui a raison. Le mensonge d'Ananias n'aurait pas été découvert. Dans un deuxième temps, Saphira aurait confirmé les paroles de son mari, et cela s'est effectivement passé ainsi. Et donc, aux yeux de toute l'Église, Pierre se trompe et il accuse faussement Ananias. Pierre a beau dire que c'est l'Esprit qui le lui a révélé, il ne peut rien prouver. L'Église aurait été divisée entre ceux qui se seraient laissés convaincre par Ananias et ceux qui continuent à faire confiance à Pierre malgré les apparences. La mort d'Ananias et de Saphira a donc probablement préservé l'Église de la division. Le verset 11 nous rapporte que cet événement a inspiré une grande crainte à toute l'Église et à tous ceux qui en entendirent parler. S'il y avait d'autres hypocrites dans l'Église à ce moment-là, cette histoire les aura calmés. Et effectivement, il y a eu une paix en interne dans l'Église dans les chapitres qui suivent. Jésus avait prévenu qu'il y aurait des loups féroces déguisés en agneaux. Ils peuvent tromper les hommes par des beaux discours et des actes. Dire « Seigneur, Seigneur !» et même faire des miracles, c'est Jésus qui le dit. Mais ils ne peuvent pas tromper Dieu. Et au jour du jugement, Jésus leur dira « Je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. » On peut dire « Seigneur, Seigneur !» on peut faire des miracles, on peut donner de l'argent, tout en pratiquant le mal. L'étiquette que nous montrons aux autres n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Seul compte ce qu'il y a à l'intérieur du cœur. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Point 3. Des étiquettes positives mais négatives. Après l'épisode qu'on vient de lire, l'Église a connu une période de paix en interne et de croissance continue. Mais les responsables religieux du peuple sont jaloux de ce succès et organisent la persécution des disciples. On commence dès acte 5, le même chapitre, au verset 17. Et au chapitre 7, on voit la lapidation d'Étienne, le premier martyr. Et à cette occasion, un nouveau personnage va rentrer en jeu, un certain Saul de Tarse. À ce moment-là de sa vie, il porte avec fierté tout un tas d'étiquettes. Il en fait la liste plus tard dans Philippiens 3. Circoncis le huitième jour, israélite de la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu, pharisien, persécuteur de l'Église, irréprochable face aux exigences de la loi. Voilà tout un tas d'étiquettes qui se mettent. Au moins deux de ces affirmations sont exagérées. De pur sang hébreu, Saul est aussi citoyen romain. Ça fait un peu tâche pour un pur sang hébreu. Et irréprochable face aux exigences de la loi, Paul reconnaîtra plus tard que personne n'est irréprochable face aux exigences de la loi. Par contre, l'étiquette persécuteur de l'Église, celle-là était largement justifiée. Je lirai juste trois textes, trois phrases. Acte 8, verset 3. Quant à Saul, il cherchait à détruire l'Église en allant de maison en maison pour en arracher les croyants, hommes et femmes, et les jeter en prison. Acte 9, verset 1. Saul ne pensait qu'à menacer et tuer les disciples du Seigneur. Il ne pensait qu'à ça. Et acte 26, verset 11, c'est Saul qui parle. « Je passais d'une synagogue à l'autre pour les punir et essayer de les contraindre à renier leur foi. Dans l'excès de ma fureur, j'allais les traquer jusque dans les villes étrangères. » Voilà l'étiquette qu'il porte avec fierté, persécuteur de l'Église. Saul est un loup féroce qui ne s'en cache pas, mais qui pense agir au nom de Dieu. Heureusement pour Saul, Dieu avait un autre plan pour lui. Et je vous invite à relire chez vous le début d'acte 9, dans lequel Jésus s'est présenté lui-même à Saul et lui a fait comprendre à quel point il se trompait. Il se trompait en particulier sur ses étiquettes qu'il considérait comme très importantes, comme un gain. Il pensait que toutes ces étiquettes, tous ces titres lui donnaient de la valeur aux yeux de Dieu. Mais en réalité, cela l'éloignait de Dieu. Et on peut lire Philippiens 3, 7 à 8. C'est ces versets qui suivent la liste d'étiquettes. Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain, mais à cause du Christ, je les considère désormais comme une perte. Je vais même plus loin. Tout ce en quoi je pourrais me confier, je le considère comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut afin de gagner Christ. Aujourd'hui, nous pourrions également être tentés de brandir bien haut nos étiquettes. Chrétien, évangélique, baptiste, diacre, responsable de service, pasteur, ancien, et au boulot pareil, PDG, responsable de ci, responsable de ça. Tout un tas d'étiquettes qu'on peut se coller à soi-même comme des titres dans différents domaines de notre vie. Toutes ces étiquettes paraissent positives, mais en réalité, elles sont négatives si elles nous séparent des autres ou si nous nous confions en elles en espérant avoir de la valeur ainsi aux yeux de Dieu. Ces titres ne nous donnent aucun avantage sur les autres. Devant Dieu, tous les hommes et toutes les femmes ne méritent qu'une seule et même étiquette, et Adeline nous l'a redit ce matin, pécheur, l'étiquette séparée de Dieu. Mais en même temps, chaque femme et chaque homme a une autre étiquette, VIP pour Dieu. Nous sommes toutes des personnes importantes aux yeux de Dieu. Et par le sacrifice de Jésus, Dieu nous offre à chacun la possibilité de recevoir un nouveau titre, une nouvelle étiquette, enfant de Dieu. Quatrième point, une étiquette négative inappropriée. La rencontre entre Saul et Jésus s'est passée sur le chemin de Damas. C'est-à-dire que Saul se rendait à Damas pour y faire arrêter les croyants qui s'y trouvaient. Mais donc, on n'a pas lu le texte, mais Jésus s'est présenté à Saul sur ce chemin. Et Saul qui arrive à Damas n'est plus du tout le même homme. Toutes ses convictions se sont effondrées. On va lire le dernier texte, Actes 9, 19 à 28. Saul passa quelques jours parmi les disciples de Damas. Et dans les synagogues, il se mit tout de suite à proclamer que Jésus est le Fils de Dieu. Ses auditeurs n'en retenaient pas. Tous disaient, voyons, n'est-ce pas lui qui s'acharnait à Jérusalem contre ceux qui, dans leurs prières, invoquent ce nom-là ? N'est-il pas venu ici exprès pour les arrêter et les ramener au chef des prêtres ? Mais Saul s'affermissait de jour en jour dans la foi, et les Juifs qui habitaient à Damas ne savaient plus que dire, car il leur démontrait que Jésus est le Messie. Après un certain temps, les Juifs résolurent de le faire mourir. Saul eut vent de ce complot. Jour et nuit, il faisait même surveiller les portes de la ville avec l'intention de le tuer. Mais une nuit, les disciples qui l'enseignaient l'emmenèrent et le firent descendre dans une corbeille le long du rempart. Quelle aventure ! À son arrivée à Jérusalem, il essaya de se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas qu'il fût vraiment devenu un disciple. Barnabas le prit avec lui, le conduisit auprès des apôtres et leur raconta comment, sur le chemin de Damas, Saul avait vu le Seigneur, comment le Seigneur lui avait parlé et avec quel courage il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Dès lors, il se joignit à eux, allant et venant à Jérusalem et parlant ouvertement au nom du Seigneur. Saul a changé radicalement. Il était venu à Damas pour arrêter les disciples de Jésus, et le voilà qu'il essaye de convaincre les Juifs que Jésus est le Messie. C'est maintenant Saul qui risque la mort. Dieu a changé le loup en agneau. En lisant le récit d'Actes 9, on peut penser que Saul s'est rendu directement à Jérusalem. Cependant, Galates 1, verset 17, nous apprend que Saul est d'abord parti en Arabie, puis qu'il est revenu à Damas, et seulement après 3 années, il s'est rendu à Jérusalem. Ça, on ne voit pas dans le texte qu'on a lu ensemble avant. Et Saul, qui arrive à Jérusalem, n'est plus du tout le même que celui qui en était parti 3 ans auparavant. Et nous comprenons bien la description qui est faite au verset 26. Les disciples ont peur de Saul, et ils ont des bonnes raisons d'avoir peur de Saul. Certains ont été arrêtés par lui. D'autres ont eu des membres de leur famille qui ont été mis à mort à cause de lui. Pas rien quand même. Tous les disciples de Jérusalem savent qui est Saul et ce qu'il a fait. Alors j'ai imaginé quelques pensées ou dialogues qu'auraient pu tenir les disciples à cette époque. Saül a disparu de la circulation pendant 3 ans. Et certains disciples de Damas disent effectivement qu'il a changé, mais c'est certainement un piège. Ça paraît incroyable tout de même. Ce bourreau ne mérite pas que Dieu se révèle à lui et lui pardonne si facilement. C'est trop facile de faire comme si de rien n'était. Tout cela sonne faux. Oui, c'est incroyable ce qui s'est passé. Mais c'était pourtant la réalité. Dieu a fait grâce. Il est vrai que les disciples avaient de bonnes raisons d'avoir peur de tomber dans un piège. Mais il est également vrai que lorsqu'on colle une étiquette à quelqu'un, on a toutes les peines du monde à voir que cette personne a changé. Saül portait toujours l'étiquette loup, même si Dieu avait transformé son cœur. Dans l'Église aujourd'hui, on pourrait aussi être tenté de coller une étiquette à quelqu'un pour différentes raisons qui nous déplaisent. À chacun de réfléchir à la question, est-ce que je colle des étiquettes aux autres ? Coller une étiquette, c'est juger, se croire meilleur, et c'est surtout aussi figer la situation. C'est ne pas croire que la personne peut évoluer, c'est ne pas croire que Dieu peut changer les cœurs. Dans le passage d'1 Corinthiens 13, que nous avons déjà évoqué, Paul affirme qu'en toute occasion, l'amour pardonne. Il fait confiance, il espère et il persévère. Avant de conclure, j'aimerais juste encore souligner le rôle de Barnabas dans cette affaire. Barnabas avait certainement lui aussi peur de Saül, mais il a dépassé sa peur. Il a espéré que Saül ait vraiment changé. Comme dans le verset de 1 Corinthiens 13, il a espéré le changement. Il a pris Saül à part et l'a écouté. Puis c'est Barnabas qui a conduit Saül auprès des apôtres, et c'est lui qui a raconté la conversion de Saül. En quelque sorte, il se porte garant de l'authenticité du témoignage de Saül. Les apôtres avaient confiance en Barnabas, et si c'est lui qui raconte ça, eh bien, ça doit être vrai. Il a quand même pris une responsabilité là-dedans. Et le résultat est sans appel. Au verset 28, il n'est plus projeté, mais donc Saül va librement avec les disciples. Les disciples ont accepté de changer leur façon de voir, et il y a eu réconciliation. Personnellement, j'aurais bien voulu savoir comment Saül s'y est pris pour demander pardon aux disciples qu'il avait fait souffrir, et comment ces derniers lui ont pardonné. Cela n'a certainement pas été facile, et ça ne s'est sûrement pas fait en un seul coup. Conclusion, attention aux étiquettes que nous collons aux autres. Apprenons toujours davantage à voir les qualités des autres au lieu de leurs défauts. Appliquons dans l'Église ce verset dont la référence était imprimée sur le t-shirt. 1 Thessaloniciens 5, verset 11. Encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi, comme vous le faites déjà. Et c'est marrant parce que dans ce verset en lui-même, s'il y avait juste la première partie, encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous à grandir dans la foi, ce serait un peu sec. Mais le fait qu'il y ait écrit comme vous le faites déjà, c'est un encouragement. Attention aux étiquettes que nous nous collons nous-mêmes. Si c'est une étiquette positive, que cela ne soit pas un titre de gloire qui me sépare de Dieu et des autres. Et si c'est une étiquette négative, rappelons-nous que chacun est VIP aux yeux de Dieu et qu'il veut nous appeler ses enfants. Merci pour votre attention.